Midi, deux minutes, Denis Gravel qui est en place. Je suis en train de parler avec Denis de l'opération policière qui avait eu lieu à Québec sur le boulevard Ramel, un certain hôtel ou motel. On a découvert une quincaillerie assez impressionnante de dope et d'armes à feu.
C'est rendu le Far West, ça.
Moi, je me pose la question, parce qu'il y en a qui ont dit « Ah, c'est peut-être le livreur. » Moi, je pense que c'est le fournisseur, là, avec une grosse poche de hockey même. Là, de...
Moi, je pense que c'est un vendeur.
Ah oui.
En tout cas,
c'est un pharmacien itinérant.
Je suis pas mal sûr. Vendeur ou fournisseur, il fait plus d'argent qu'un Uber Eats, c'est sûr.
Mais sauf qu'il est stressé à longueur d'année, par exemple, pas à cause du trafic.
T'es flic à Québec, ça t'inquiète-tu? De moi, voir qu'il y a du monde qui se promène comme ça, aussi lourdement armé.
Ben oui. C'est sûr que c'est inquiétant. Puis, je me trompe peut-être. Je pense qu'il y a des policiers qui aiment ça, être au cœur de l'action, l'action avec un grand A. Je présume que ces policiers-là ne viennent pas travailler à Québec.
Peut-être maintenant, oui.
J'ai l'impression que des policiers qui, il y a 10 ans, ont choisi Québec,
ouais,
c'est qu'ils veulent peut-être faire plus de la prévention, de la surveillance, s'imposer quand il le faut. Là, je ne dis pas qu'ils essayent d'éviter leur métier de policier. Mais Québec est une ville tranquille, puis je me dis, le policier qui choisit Québec comme milieu de vie, comme nous autres, quand on a choisi Québec comme milieu de vie, un des arguments que Québec avait en sa faveur, c'est que c'était une ville tranquille, donc sécuritaire. C'est sûr que ça doit être terriblement stressant de constater que tu peux te faire donner un coup de shotgun alors que tu t'en vas faire ce que tu penses être une arrestation de routine, tu sais. Des affaires tu vois à New York, à Montréal, mais à Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, probablement depuis les années 70.
Oui, leur objectif, j'imagine, quand ils partent de chez eux le matin, c'est de revenir voir leurs enfants.
Idéalement,
le soir,
hein, oui.
Ouais. Je pense à Catherine, qui était mon ancienne collaboratrice. Elle patrouillait sur la 73. C'est un jour, comme tous les jours, où elle patrouille sur la 73, puis elle vérifie s'il n'y a pas des vitesses excessives qui passent devant elle. Puis à un moment donné, ben, elle décide de partir après un individu qui, visiblement, roulait trop vite. Le gars sort, tire deux balles. Puis elle, ça a mis fin à sa carrière de patrouilleuse, alors que ça, c'était le rêve de sa vie.
Ouais. Puis tu sais, à la quantité de drogue qui semble se promener à Québec, avec des gens lourdement armés et probablement à la fois nerveux, paranoïaques et crinqués, c'est sûr qu'il y en a un qui va se faire tirer à un moment donné. Pas que je le souhaite, mais tout est en place pour ça.
Si tu as de la drogue impliquée, là, puis de la crainte, mettons, pour te faire arrêter ou autre, je veux dire, ça te désorganise assez pour avoir des comportements de protection qui n'auraient pas normalement eu lieu dans une autre situation.
On est rendu là à Québec. On est rendu dans le Far West. Là, c'est rien qu'un char avec une personne, plus deux personnes d'une chambre d'hôtel. Puis on a assez de pilules dans ma tête pour, fournir Limoilou au grand complet ou fournir Beauport au grand complet.
Ah, tu peux désorganiser Dwayne The Rock Johnson avec ça.
tu fuck une coupe de PH, ça c'est sûr.
Parlant de Québec, qu'est-ce qui se passe avec nos conseillers? Il y en a plusieurs qui décident d'annoncer leur départ. Jean-François Gosselin qui dit « Ben moi, c'est mon dernier mandat, puis je suis rendu là. » Il a fait quelques années avec l'ADQ, Jean-François Gosselin, puis après ça, il est rendu presque à 8 ans comme conseiller à la ville de Québec.
Je suis surpris.
Décide de quitter.
Je suis surpris, Jean-François Gosselin, parce que je trouvais que dans la position où il était, il s'est enlevé probablement tout ce qu'il stressait, puis il focussait sur développer le sport à Québec.
Ce qu'il aimait.
Oui, oui, c'est sa passion première, puis il s'en cache pas. Je me disais, en voilà un qui est placé, entre guillemets, qui est à la bonne place. Tu sais, des fois, tu essaies de trouver ta place dans la vie ou d'une job. Je me disais, tiens, lui, il a trouvé où est-ce qu'il fit dans le casse-tête, puis il doit être très heureux. J'ai été surpris d'apprendre ça, puis en même temps, j'ai été surpris de savoir qu'il avait pogné 50 ans cette année. Il a de l'air plus jeune que nous autres. Ça, c'est pas notre avantage.
Jean-François Gosselin?
Ben,
c'est peu, il est grisonnant, là.
Ben, on est tous grisonnants.
Il est jaloux,
moi,
embarque non, mais là, pas, si il fait
ça,
son
il
jaloux.
Va m'écrire encore sur Twitter. Il va rire encore de nous autres.
Je t'embarque pas là-dedans.
T'as plus de cheveux sur la tête, Denis!
Ah, t'es coquette.
Il va en parler pendant deux ans, là, pas là.
Il a de l'air plus jeune que moi. Je retire Marceau de cette discussion.
Je prendrais comme Père Noël pour mes enfants.
André le Père Foura, ça va être ta prochaine phrase.
Là, tu pousses.
mais oui, Jean-François Gosselin a de l'air jeune. Il va avoir 50 ans, si je ne me trompe pas, c'est cette année ou l'année prochaine.
Exact.
C'est ce que tu as dit. Puis il veut passer à d'autres choses. C'est un homme d'affaires, Jean-François Gosselin. Il a eu sa clinique pendant des années avec sa soeur qui est malheureusement décédée, qui était atteinte de la fibrose kystique, Valérie. Puis là, il veut passer à d'autres choses. Il ne ferme pas la porte à peut-être se présenter pour un parti provincial ou fédéral. Là, visiblement, ça, il ne sera pas des élections fédérales, mais peut-être pour ce qui est des prochaines élections provinciales, il sera là. Avec quel parti pourrait fitter?
Je ne sais pas, hein?
c'est touché.
Oui, puis, mais là, il ne peut pas encore être...
Parce que je vois du Parti conservateur, hein, Jean-François Gosselin. Je vois du Parti québécois, hein, Jean-François Gosselin. Je vois aussi de la Coalition Avenir Québec.
Fait que toi, ce ne serait pas jugé opportuniste, mettons, peu importe le parti où il va. Parce que tu sais, c'est quelque chose qui a traîné, là, qui a pendu au bout de son nez là, depuis qu'il a été transfuge au municipal.
S'il y a des visions pour le sport, tu sais, je pose une question à voler de même. Là. S'il y a des visions pour développer le sport au Québec, changer notre approche du sport, puis je ne sais pas... Je crois Jean-François Gosselin, puis on s'échange des mondanités sur la météo, puis les remparts, puis on poursuit notre petit bout de chemin, mais il pourrait être intéressé à dire, bon, ben c'est eux autres qui vont former le prochain gouvernement. Uh-huh. Moi, je vais leur proposer ma vision du sport, puis s'ils embarquent là-dedans, ben je vais embarquer avec eux autres. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, j'ai quelque chose à faire pour la société dans un secteur particulier, le reste, ça me regarde pas. Moi, je me concentre sur le big prize. Je vais demander d'être ministre du sport, je vais proposer des changements, puis...
Mais là, ça me fait rire parce que ça, c'est Gabardy qui se présente chez les conservateurs dans Charlevoix.
Oui.
Ouais, c'est exactement ce profil-là.
Je trouve ça habile, d'ailleurs, comme choix de candidature. Là, j'en ai parlé avec les filles dans le retour.
Mais c'est exactement le dit profil que tu viens de décrire.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui pourraient dire... Moi, indépendamment du véhicule, si je peux développer mon bout de char... Il y a des ministres de la Santé qui ont fonctionné comme ça dans les dernières années. Évidemment, ça n'a pas marché, là. Mais de dire, OK, c'est qui fait le prochain gouvernement? Moi, j'embarque avec eux autres, puis moi, je vais essayer de sauver le système de santé. Je vois d'un meilleur œil ce genre d'opportunisme-là. Quand t'as quelque chose à contribuer ou t'as quelque chose à essayer dans un secteur, je sais pas si tu me suis. Tu sais, mettons que t'es plus à droite, puis tu te rends compte que c'est un parti de gauche qui va être le gouvernement, puis que tu décides d'embarquer avec eux autres en disant « moi, je vais développer mon secteur, mon rayon », tu sais.
Ouais.
Je comprends mieux la démarche mentale. Il y en a qui peuvent dire « c'est opportuniste en tabarnouche ». Moi, je dis « ouais, mais c'est parce que dans les estrades, il y a du monde qui a le goût de jouer sur la glace ». Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent contribuer, ils pensent qu'ils peuvent amener quelque chose.
Mais c'est moins opportuniste qu'un politicien de carrière, moi, c'est la définition que tu es en train d'évoquer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un principe, qui a des visions, qui a des visées, puis qui se dit je vais tenter le coup de cette manière-là parce que j'y crois, puis fondamentalement, je pense que c'est pas possible.
Puis il l'a fait au municipal, Jean-François Gosselin. Il l'a dit. Il dit moi, j'étais là pour que le tramway se fasse pas. Puis il est embarqué dans. Il est embarqué avec le maire. Puis après ça, sur le tramway, il a décidé de ne plus s'exprimer puis de s'occuper du sport.
Fait exact.
C'est un peu la même démarche.
Y a-t-il une lecture? Peut-être que les auditeurs pourraient participer à la discussion, là, mais est-ce qu'on peut faire une lecture sur le fait que ça va pas super bien avec le maire actuel?
Parce que
c'est quatre grosses têtes qui partent. Là. C'est Pierre-Luc Lachance, c'est Steve Verrette, c'est Jean-François Gosselin et Maude Mercier-Larouche.
Ça, c'est la bosse du RTC.
Ça, c'est la bosse du RTC qui a octroyé un boni à son employé en disant « Ouais, c'est... il y a quand même un peu de progression, mais je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup. »
Elle était ultra protégée par le maire parce que même quand le RTC a reçu un très mauvais bulletin de performance, le maire n'a pas demandé des comptes. Il a défendu le RTC en disant que c'est eux autres qui font les bulletins qui ne sont pas bons. Il a fait ce que Patrick Roy a fait hier. Les arbitres ne sont pas bons. Nous autres, on est corrects.
Puis Maude Mercier-Larouche a travaillé très longtemps avec Bruno Marchand. C'est pas juste à la Ville de Québec, cette bonne entente-là. C'était chez Centraide. Mm-hmm. Maude Mercier-Larouche a travaillé des années avec le maire chez Centraide avant qu'il arrive à la Ville de Québec.
Ça amène des points d'interrogation, là aussi, parce que avec le RTC, avec la bénédiction du maire, ben, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Puis oui, les médias vont questionner, mais à partir du moment où le maire te demande pas de compte, le navire vogue, mais c'est des grosses têtes, entre guillemets, qui décident pas mal toutes de partir en même temps. Est-ce que c'est un malheureux concours de circonstances où les dernières années ont été difficiles? Théorie. On voit comment la ville interagit avec ses propres citoyens. On va prendre un exemple récent. Des centaines de personnes ne reçoivent pas leur compte de taxes municipales.
Oui.
Ça commence à faire jaser, ça commence à grenouiller, commence à avoir des reportages. Puis là, il y a des gens qui disent « Ben oui, mais moi, normalement, mon premier paiement, c'est le 3 mars. Puis j'ai rien reçu encore dans mal. Je sais même pas combien je dois à la ville. »
Puis souvent, faut-tu le calcul avec les montants que
ben
c'est
oui.
Avec c'est maintenant?
Puis c'est une année d'augmentation.
Exact. Énorme.
Fait que là, la première réponse de la ville, ça a été « Ah, nous autres, c'est pas notre problème. On a tout chipé nos affaires, puis tout est beau. » Oui, mais le monde, ils savent pas combien. Ah! Ils paieront des intérêts, mais qu'ils reçoivent le compte. Nous autres, c'est, nous autres, on a tout fait correct.
Pas de sens.
C'était très, très condescendant, très hautain. Ça manquait d'humanité. Puis une semaine plus tard, ah, finalement, il y avait un problème. Ah, finalement, ben, il y aura pas d'intérêt sur le premier paiement de taxes municipales. Tu sais, c'était-tu compliqué dès la première réaction de pas... Puis je me demande si, à l'hôtel de ville, dans les interactions entre les conseillers, même d'une seule et même équipe, c'est-tu comme ça qu'on gère? Moi, travailler d'un milieu de même, j'aurais pas de plaisir. Là, me faire traiter comme je me fais traiter en tant que contribuable. Moi, je suis chanceux, là, il est rentré par la poste. Là, fait que j'ai organisé mes paiements, puis tout. Mais je sais pertinemment que si je reçois pas mon compte de taxes... Rendu le 3 mars, je sais pas quoi faire.
On peut-tu penser que c'est pire avec même des
collègues?
Oui,
il est rentré, mais je l'ai pas vu encore.
Il l'a pas ouvert. On peut-tu penser que ça peut être même pire avec des collègues, vu que c'est des gens qui sont constamment avec toi, puis c'est pas eux nécessairement qui vont t'élire?
Peut-être.
Imagine.
Peut-être.
Mais puis en même temps, ce matin, j'écoutais l'entrevue avec Patrick Paquet, là, oui, qui était avec la gang de Rage Against le matin. Je comprends plus rien. Steven Melançon, qui devient le chef du parti de Patrick Paquet. Les discussions avec Ahmad, ils se poursuivent. Patrick Paquet veut pas être maire, mais il veut rester là comme conseiller spécial aux élus. Mais ils n'ont pas de chef. Melançon accepte d'être chef, mais il va partir après.
Il y avait l'air d'un gars qui a réalisé un coup le micro ouvert. « Hey, je devrais peut-être pas faire d'entrevue, moi, cette semaine. »
Ça aurait été une bonne affaire.
Puis respecter l'ordre des affaires qu'on est supposé annoncer. Sam Ahmad qui se lance, la fusion de notre parti. Parce que là, je suis en train de tout fucker le plan parce que je bredouille des réponses qui se tiennent pas debout.
Mais
là,
moi, là...
Donc la nouvelle, c'est...
Qu'est-ce qui fait bien rire, là?
La nouvelle, c'est le conseiller municipal Steven Melançon devient chef par intérim du parti de la deuxième opposition à l'Hôtel de Ville de Québec jusqu'au déclenchement des prochaines élections municipales. Melançon sera pas là pour ce qui est de pour être candidat à la mairie pour équipe Priorité Québec, c'est ce qu'on nous mentionne. Mais pourquoi il s'est déplacé, Patrick?
Ben, j'imagine qu'il avait le goût de jaser, mais personnellement, ben, si j'ai bien compris la patente, il y aura l'annonce de Sam Ahmad qui se lance. Et pas longtemps après, il va avoir l'annonce que le parti de Patrick Paquet va se greffer à l'équipe et au parti de Sam Ahmad. Bon, maintenant que tu sais ça, puis que tu t'en vas en entrevue, si t'es pas capable de jouer la trappe comme faux, ben, ça donne l'impression qu'il y a des fuites dans le bateau. Puis mettons que je suis Sam Ahmad, puis que ça fait un an et demi que je prépare ma présentation, puis que j'écoute ce que Patrick Paquet a fait à matin... Je suis pas content.
Ouais, parce que c'est un non-élu, Patrick Paquet. Ouais, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien.
Non,
là, on ne parle pas de l'homme, on parle de la gestion communicationnelle politique de Patrick Paquet, qui est particulièrement divertissante et étrange.
Ça paraissait peut-être pas, mais je l'aime beaucoup, moi aussi, Patrick Paquet. Là. C'est juste qu'à matin, il s'est fraisé solide. Là. C'est, ça arrive, coudonc, là.
Mais c'est pas la première fois qu'il vient en entrevue et qu'il s'épivarde un peu. Non, là, les gars, soyons quand même honnêtes.
Mais tu sais, il accepte toujours de venir en entrevue et de répondre aux questions, mais la nouvelle, c'est que... Lui, il est non élu, mais il veut rester là. Mais, mais tu t'en vas avec qui? Ben, je sais pas.
Ben, moi, je viens te présumer l'ordre des choses des prochaines semaines. Je me trompe peut-être, là.
Quand j'ai parlé avec sa maman au téléphone, il m'a dit quelque chose qui me reste encore dans la tête. À partir du moment où tu pars ton propre parti, c'est toi qui mènes. C'est toi qui mets les bases du programme, c'est toi qui décides ce que tu vas mettre en place. Si tu prends un parti qui est déjà en place, tu dois vivre avec ce qui est déjà en place, incluant les employés de ce parti-là et leur passé. Fait que là, est-ce que Sam Ahmad va se greffer à eux?
Reviens à une question de base. Qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que Sam Ahmad a besoin de Patrick Paquet ou Patrick Paquet a besoin de Sam Ahmad? Moi, je trouve que la réponse, ça vient tout seul. Fait que dans ce rapport de force-là, peut-être que Patrick Paquet aurait intérêt à faire attention en entrevue. je referme.
Et de ne pas se présenter en entrevue.
Hey, ben, chance nous l'a dit.
puis en même temps, tu sais, il va falloir qu'il y ait des gens qui fusionnent ensemble parce que là, c'est vrai qu'il va y avoir un éparpillement du vote d'une façon ou d'une autre. Si tu as 8 partis qui se proposent pour challenger le maire Marchand, il y a de bonnes chances que le maire Marchand ait son nouveau mandat. Fait que,
ouais. Ça, il n'y aura pas tant d'opposition forte, du moins assez en plus pour ne pas le faire réélire. Puis, il y a beaucoup de sujets qui s'entrecoupent de parti en parti.
Mm-hmm.
Ça vient un peu désorganiser au final.
Parce que mettons que Claude Villeneuve va chercher un 10 % du vote. Ben, c'est suffisant, amplement suffisant pour combler un écart ou une lutte serrée entre Sam Hamad et le maire Marchand.
Parce que l'équipe Priorité Québec, bon, le chef pour l'instant, c'est Steven Melançon, mais il sera pas candidat pour la mairie. Puis là, la formation va annoncer plus tard qui portera ses couleurs pour devenir le prochain maire de Québec. Mais le parti ne cache pas continuer les discussions avec Sam Hamad, qui devrait lancer sous peu, lui, son propre parti.
Ce parti-là, d'après moi, dans 3 semaines, il n'existe plus.
Ouais, ça...
Mon feeling.
Ah,
là,
c'est raide, hein? Pareil, c'est comme des gens qui se sont impliqués. Ben, c'est ça, la
politique. Non, mais si
là,
on trouve un objectif commun, puis un programme commun, puis que tout le monde est d'accord.
Une
moi,
coalition.
J'ai pas de
problème. On voit, ça fonctionne au provincial, vraiment, la coalition de François Legault. Il n'y a personne qui se déchire à l'interne. Tout le monde est d'accord dans les mêmes enjeux.
Puis le Québec, c'est drôlement amélioré.
Le Québec, c'est nous, comme dirait le Bloc québécois, là, vraiment. Mais honnêtement, une petite affaire, je trouve qu'on est allé vite là, par rapport à Jean-François Gosselin. Si on tasse l'homme de la politique de l'homme, quand même vu comme... Je suis pas sûre qu'il aurait été si réélu que ça.
Jean-François Gosselin?
Aux prochaines élections. Et je m'explique le pourquoi ça me vient en tête. Il a tellement fait couler d'encre quand il a changé de parti. Il a tellement fait couler d'encre quand il s'est rangé derrière le tramway. Je pense qu'il a perdu des plumes politiques et de la crédibilité auprès de l'électorat.
Ça peut être peut-être stratégique, effectivement. Ouais. Mais tu sais ça, à un moment donné, il va venir en entrevue puis on lui posera ça comme question.
Mais quand ça te tente plus puis que tu sais que tu vas te faire laver, ben tu te représentes, tu perds, puis tu t'en vas chez vous. T'annonces pas que tu t'en vas 3 mois d'avance.
Sondage élection fédérale réalisé par la presse canadienne. On place le Parti libéral à 44 % chez les électeurs qui sont déjà décidés, comparativement à 38 % pour les conservateurs. Je serais curieux de savoir au Québec là, si ça a changé le fait que Mark Carney ne veut pas se présenter à TVA pour le prochain débat. Je pense que ça a fait énormément de gens qui sont déçus. Il y en a qui disent que c'est un chicken, il a peur de répondre à des questions en français, participer au débat en français. Mais je trouve qu'ils ont mal géré leur affaire. Puis j'en parlais avec Pascal. Si j'étais le conseiller de Mark Carney, j'aurais dit... Non, non, la raison, c'est qu'on veut pas payer à chaque fois qu'on va passer dans une province. Donc, tu comprends, si tu arrives à TVA et tu donnes 75 000 pour faire le débat, ben tu arrives en Ontario pour faire un débat, ils vont te redemander 75 000. Manitoba, ils vont te redemander 75 000. Tu veux pas créer de précédent.
C'est un excellent point.
Ça aurait dû s'arrêter là.
Oui, mais c'est un excellent point si les autres sont solidaires et que tout le monde dit la même chose. Si tu es tout seul à le dire, même si tu as raison, même si ton point est bon, t'as de l'air du gars qui est chicken puis qui veut pas y aller. La politique, c'est la perception, tu le sais. Puis ça, c'est sûr que ça a une influence négative. Mark Carney a un mauvais début de campagne au Québec. L'aller-retour à Montréal, parce que monsieur avait pas le temps de venir à Québec, c'est une première gaffe dans mon livre à moi. La gaffe numéro 2, ben, c'est justement, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, à partir du moment où tu dis « moi, j'embarque pas » puis que les autres embarquent, t'as de l'air fou puis t'as de l'air du gars qui a peur de débattre. Puis les lignes s'écrivaient toutes seules. À 3 heures hier avec les filles, je disais « ben, c'est sûr que les conservateurs vont dire « regardez, il veut même pas débattre à la télévision francophone. Imaginez ce gars-là négocier avec Donald Trump. » Tu sais, je veux dire, c'est donner des munitions à ton opposition. Maintenant, si tu regardes le sondage de cette semaine, alors que si on recule de 2 semaines et demie, 3 semaines, les libéraux et les conservateurs étaient à égalité dans les intentions de vote, c'est un grand bond par en avant. Ça va-tu coller toute la campagne électorale? Bien là, si on multiplie les faux pas comme ces partis-là, on va peut-être un peu plus avoir une lutte. Mais présentement, les libéraux mènent en Ontario, ils mènent en Colombie-Britannique, ils mènent au Québec. T'as juste les provinces de l'Ouest où les conservateurs sont devant. Là.
Je regardais les votes par âge, Denis, puis les gens qui sont libérales à la grandeur du Canada, c'est beaucoup les gens de 60 ans et plus.
Oui.
Parce qu'eux autres, ils veulent garder leurs acquis, tout simplement. Puis
c'est
ils veulent
ceux
pas
qui
se
votent
faire
le
couper,
plus. Hein? Ouais, c'est ça.
Ceux qui votent le plus, effectivement. Mais en même temps, c'est-tu parce que tu changes la tête du serpent que ça va être un parti qui est totalement différent? Puis j'ai ri parce qu'il y a un journaliste qui a posé des questions à Mark Carney sur ses fameuses promesses électorales de baisser les impôts, puis abolir la taxe carbone et tout ça. Puis le journaliste a dit « mais pourquoi vous vous êtes pas présenté chez les conservateurs?
» Ouais.
Et là, il a comme été malaisé par cette question-là parce qu'il se base sur le programme du Parti conservateur pour dire « ben nous, on va faire telle affaire ». Puis là, les conservateurs arrivent et « ben c'était notre idée, mais savez-vous quoi? On va renchérir ». Puis les conservateurs nous expliquent qu'ils vont devoir couper pour réaliser cette promesse électorale-là. Tandis que Carney dit « oui, oui, on va abaisser les impôts, oui, oui, on va couper la taxe carbone ». Mais ils ne nous expliquent pas où est-ce qu'ils vont prendre l'argent.
Il y a un auditeur hier qui me disait « en période d'incertitude, on essaye de revenir à l'essentiel, puis on reste... » Puis là, je sais que c'est le mauvais mot, mais on devient conservateur. Pas conservateur comme le parti avec les pancartes, mais conservateur dans le sens « ouais, c'est lui le premier ministre. »
On est moins spontané. «
C'était le gouvernement en place, on est en période d'incertitude, il a de l'air un peu moins querelleur que l'autre. »
Les équipes sont déjà rodés en partie.
Donc, tu sais, je comprends qu'il y a plein d'enjeux dans cette campagne électorale-là. J'ai de la misère à voir les autres. Ouais. Moi, je vois juste la guerre tarifaire puis les négos avec Donald Trump. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à sortir de ça aussi.
Poilievre va devoir se distancer de Donald Trump, va devoir parler de son équipe. Qui sera son ministre des Finances?
Ouais.
Qui sera son ministre des Affaires étrangères? Qui va négocier avec le gros orange une fois élu? Il n'aura pas le choix de le faire parce que jusqu'à maintenant, là, c'est le show Poilievre à la grandeur du Canada.
Puis il y a de l'ouvrage, puis c'est... bon, la politique étant ce qu'elle est, ça bouge, c'est comme n'importe quoi d'autre, mais tout l'ouvrage qu'il a fait en campagne de pub dans la dernière année et demie, tu prends ça, tu mets ça aux poubelles, puis tu recommences à zéro parce que les enjeux ont complètement changé, c'est plus les mêmes.
Surtout que sa stratégie politique de communication, à la base, c'était de taper sur l'autre, il proposait plus ou moins de choses, puis il rentre dans un contexte où la proposition mise de l'avant est ce que les gens recherchent.
Bien, il y a déjà un changement d'image. Il y a des observateurs plus fins que moi qui disaient que depuis quelques jours, Poilievre sourit beaucoup plus. Il s'est probablement fait dire de sourire puis d'avoir de l'air un peu moins d'un gars sur le sentier de la guerre, justement pour se distancier de Trump
puis
créer l'image de quelqu'un d'un peu plus accessible.
Denis, on parle de marijuana. Je ne sais pas si on a parmi nos auditeurs des consommateurs de marijuana.
Tu le sais, il y en a plein.
SQDC 418-971-1021. Entre 2014 et 2020, dans la portion des jeunes entre 15 et 24 ans, y a-t-il une augmentation annuelle des consommateurs de marijuana, selon toi? Et si oui, de combien?
J'ai triché, j'ai regardé les réponses.
Ah, mon salaud!
Fait que je peux pas jouer. J'ai été surpris.
T'aurais dit quoi?
J'aurais dit une augmentation.
J'aurais dit effectivement aussi une augmentation. Je t'aurais dit une augmentation de à peu près 30 %.
Je serais pas allé si haut que ça, mais je serais allé pour un 10-15.
Parce que c'est rendu légal,
ben
la
oui,
marijuana.
Exact.
Mais pas pour les moins de 18 ans, mais c'est rendu légal, la marijuana. Donc, moi, dans ma tête à moi, les consommateurs de marijuana entre 15 et 24 ans avaient augmenté. Selon les statistiques qu'on peut lire chez Santé publique Québec, c'est chez les jeunes de 15 à 24 ans, ça l'a diminué de 21 %.
Et c'est le seul groupe d'âge où il y a des diminutions.
Hein. Exact.
Ouais.
Chez les 25 à 44 ans, je compare de 2014 jusqu'à 2020, on parle d'une augmentation de 31 %.
Moi, ce qui me j'ai une question en partant. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Si vous prenez plus de potes, puis vraisemblablement, vous prenez pas de bière non plus parce que ça fait grossir, c'est quoi que vous prenez? Actuellement, c'est quoi qui est en vogue? Là? C'est quoi le buzz? J'ai l'air d'un vieux monsieur là, qui essaie de comprendre. Le moche?
Le moche.
Une microdose de moche. Là.
La cocaïne?
Bien, cocaïne, c'est parce que là, si mettons, on parle à quelqu'un de 12 ans, 13 ans, 14...
C'est un peu plus rare. La fameuse drogue du viol?
GHB liquide, mettons.
GHB intentionnel.
Microdose.
Beaucoup de jeunes prennent du GHB intentionnel.
Je sais pas où avec ça,
ce que je m'étais fait raconter.
Oui, dans les dernières années, effectivement.
Parce qu'il n'y a pas moins de personnes qui s'intoxiquent. Il y a clairement d'autres choses qui retiennent l'attention. Là,
donc, chez les 25 à 44 ans, de 2014 à 2020, ça a augmenté de 31 %. Et là où ça me fesse vraiment, c'est les 45 à 64 ans, plus 55 %. Et 65 ans et plus, augmentation des consommateurs de cannabis de 245 %.
Wild thing! You make my heart
dream. Mais celle-là, elle me surprend.
Oui, puis non.
L'augmentation du cannabis, moi, celle-là, elle me surprend.
Ouais.
L'augmentation de la cocaïne, qui n'est pas une augmentation, selon moi, c'est une explosion, mais sidère.
T'sais, dans le texte que tu as sous les yeux, il y a des gens qui lancent un cri d'alarme versus ces chiffres-là.
Ouais.
J'ai peut-être une version trop romantique, mais moi, quelqu'un à retraite qui se tape un petit joint de pote pour se la couler douce, j'ai pas de problème
avec
ça, mais pas
pantoute. T'imagines de même, c'est pour ça, là.
Il y en a qui ont réussi, avec l'accord des médecins, bien sûr, de substituer un médicament ouais. en fumant ou en consommant du cannabis.
Il y en a que ça marche, il y en a que ça aide pour des troubles de sommeil, des troubles d'anxiété.
Exact.
Il y en a que la drogue rend anxieux aussi. En passant, je fais pas la promotion du cannabis, je suis pas un fumeur, j'aime pas ça, je suis un buveur. J'ai pas le cannabis, moi ça me rend anxieux. Fait que c'est pas quelque chose que j'aime, je fume à peu près jamais.
Toi, ça te rend anxieux, puis pourtant, il y en a qui fument ça justement pour enlever leur anxiété. Ouais. C'est weird l'effet que ça peut faire sur chacun des individus.
Puis en même temps, ben, vu que je connais pas ça, je prends peut-être pas le bon produit quand j'en ai essayé, puis je le prends peut-être pas dans le bon contexte non plus. Mais vois-tu, c'est pas mon vice, c'est pas mon dada. Moi, c'est une petite bière en soirée, c'est ça que j'aime, tu sais.
Moi, je suis pas un consommateur, j'ai trop peur de rester accroché, là. Je peux être un peu fragile. Des fois, je prends de la Coors Light, je trouve que ça pique. Mais
t'apprends shooter. Oh, c'est
mais,
fort, ça.
Mais pour ce qui est des personnes âgées, là, les experts soulignent qu'il y a des risques, là. Surtout pour ce qui est des aînés, on parle de perte d'autonomie. On parle de risque de chute, de développer le cancer, de souffrir de troubles de santé mentale ou encore de problèmes cardiovasculaires et pulmonaires.
Je trouve qu'on exagère un petit peu.
Je suis pas sûr.
Je trouve qu'on exagère pas mal.
Je suis pas sûr.
Mais t'es pas sûr dans quel sens? Là, ben, dites-vous la même affaire?
Non, non,
tout,
non, non,
des
non
mots
on se parle.
On n'est pas d'accord.
Non. Vous n'êtes pas d'accord?
Non.
OK.
Ouais. Non, c'est une drogue quand même que si tu prends, mettons, en inhalation, ça a des effets assez problématique à long terme. Juste sur le psychologique, c'est une drogue qui joue beaucoup, qui peut déclencher aussi. Il y a des addictions que tu te rends pas trop compte parce que t'es pas une personne, mettons, le crack, okay? Tu te mets à consommer du crack demain. La façon dont tu vas être désorganisé va être flagrante, va mener à beaucoup de comportements toxiques, nocifs, surtout en société, même criminels, voire... Le pot, non, mais quand c'est omniprésent dans ta vie, ça ralentit énormément ton métabolisme. Il y en a qui sont super efficaces et efficients quand même sur cette drogue-là, mais ça reste qu'à long terme, dans ton corps, il y a des changements. Mm. Puis les gars, parler à des gars, mettons, de ma génération qui ont beaucoup fumé au secondaire, nous, c'était très, très populaire, là, t'étais cool. Là. La cigarette n'était plus cool, mais le pot était très cool au secondaire. Les dommages érectiles que ça a fait, là... C'est immense comme témoignage.
Je pense aux personnes âgées.
En fait, c'est pas immense, c'est flasque.
les pertes d'autonomie.
C'est un bassin flasque
de
témoignage.
Pendant la pandémie, j'ai côtoyé des personnes âgées. Puis le fameux lockdown là, des personnes âgées dans les centres de personnes âgées, j'ai vu les pertes d'autonomie là, de semaine en semaine. Mm-hmm. Ça m'avait marqué, Denis. Fait que quelqu'un qui consomme régulièrement du pot et relax, ça ne tente pas nécessairement de faire trop de social ou faire des activités sportives et tout ça. Il peut y avoir une perte d'autonomie. Là-dessus, je rejoins les experts. Pour ce qui est des chutes, mais c'est la même chose que l'alcool. C'est un monsieur de 80 ans qui est saoul ou qui fume son petit joint et perte d'équilibre, merci, bonsoir. Se caser les hanches à 80 ans, c'est pas la meilleure des idées.
Le point avec lequel je suis d'accord des observations médicales, c'est dans des cas où, par exemple, t'as fumé ton petit joint dans le temps de Woodstock puis quand t'écoutais le premier album de Beau Dommage, puis depuis, t'en as pas refumé, tu sais. Puis là, tu décides que tu recommences comme dans le temps.
Ouais, les consommateurs des années 70-80 qui sont comme...
C'est parce que le taux de THC puis de la façon qu'on compose ces joints-là, ça a changé radicalement. C'est comme la personne qui décide... au show de Peter Gabriel, de prendre une brosse comme dans le temps qu'il est allé voir Genesis en 73, puis qu'il va se vomir le corps après deux tonnes d'un toilette publique. C'est un peu... Là, ça devient un danger. T'sais, quelqu'un qui a consommé son petit joint une fois de temps en temps toute sa vie, puis qui continue de le faire à sa retraite, moi, c'est drôle, hein?
Mais tu contrôles assurément plus que ça fait sur ton corps, mais par contre, ça veut pas dire que les dommages à long terme n'existent pas.
Oui, mais ça, des dommages à long terme, là...
Quand t'as 90 ans,
moi, juste travailler avec vous, je sais que ça va mal aller dans quelques années.
C'est sûr. Tu sais, on mange du ballonné, il y a des dommages à long terme.
Oui, mais faut pas les...
J'écoutais ton doc tantôt, si on fait pas rien que manger des poires, si on va mourir à 50 ans.
Faut quand même pas négliger le fait que ça existe. Moi, ma santé mentale est clairement en décrépitude depuis que je suis ici, là.
Oui, oui, ben oui.
Faut que j'assume
C'est bien plus grave.
Que je prends des risques.
Fume un joint, ça va mieux aller.
Côtoyer des gens normaux, nous autres, on trouve que ça te fait du bien. Parce que... pour ce qui est des tarifs, je ne veux pas parler des tarifs avec Donald Trump et tout ça. Là. Je veux juste parler de ce qui se passe chez nous dans nos épiceries parce qu'il semble y avoir le chaos, là, entre autres chez Loblaws. Eux, ils annoncent des panneaux en magasin avec un nouveau logo. C'est un gros T là, dans un triangle pour dire salut à Tesla, j'imagine. Mais pour T pour tarif, ce qu'on nous dit. Puis on dit qu'on va mettre ça sur les produits. Chaque produit qui va être avec un tarif appliqué, ben, il va avoir un gros T noir dans un triangle. Le problème, c'est qu'il y a des produits de chez nous qui sont fabriqués avec des ingrédients qui proviennent des États-Unis. Donc, c'est des produits chez nous qui sont fabriqués avec des ingrédients qui proviennent de chez nous aussi.
Il y en a qui vont se faire hâter par le thé.
Ben, on va se nuire à nous-mêmes.
Probablement, puis ça va devenir compliqué aussi sur quoi tu mets un thé puis sur quoi t'en mets pas, là.
Oui, tu sais, oui, effectivement. Puis je me pose la question, on serait-tu mieux juste de rien faire, de dire aux gens, ben soyez très alertes sur les produits que vous achetez. Ne les scrapez pas s'ils viennent des États-Unis, soit dit en passant. T'as entendu parler de cette vague à Montréal de gens qui faisaient le tour des épiceries, puis quand ils voyaient un produit des États-Unis, ils les crapoutissaient.
C'est qu'il y a du monde qui n'ont rien à faire. Dans
non,
ce...
ils comprennent on pas non plus que l'épicier de leur coin
on salue les gens de Québec solidaire.
Ouais, c'est quoi mais... qui arrive à l'UQAM, là? Ils ont défait les tentes de camping, là. C'était ce monde-là cherche des affaires à faire.
C'est des escouades qui sont organisées à Montréal, puis là, ils rentrent en gang dans l'épicerie. Là, ils font le tour des produits, puis là, quand ils voient un produit des États-Unis, ou bien ils vont poquer la canette.
OK, OK, vous avez raison. Le cannabis cause des dommages irréversibles. Je me rends à ton argument.
Mais soyons logiques, tu sais. Ouais. Soyons juste logiques. Mais... ne nous nuisons pas à nous-mêmes. Tu sais, le food professor dit... écoutez, là, on comprend là, les efforts que les gens veulent faire pour acheter local, puis c'est parfait, mais il y a des produits qui peuvent être étiquetés avec un gros T comme tarif, mais qui sont produits chez nous, ici, et vous allez nous nuire à nous.
Puis juste avant, ben, l'Office de protection du consommateur avertissait que c'est pas parce que c'est écrit « fait au Canada » que c'est fait au Canada, puis c'est pas parce que c'est écrit « fait au Québec » que c'est fait au Québec. Bref, ça vient qu'on sait plus, mais des gens qui décident de se conscientiser, il y a du travail énorme qui a été faite dans les dernières semaines. Je sais qu'il y a des groupes Facebook. Je sais que la presse, à tous les jours, prend un produit. Là, mettons les céleris. Hein? Si tu veux acheter des céleris québécois, puis le lendemain, ils font les antisudorifiques. Fait que quelqu'un de conscientisé va faire son travail, puis il va faire ses affaires. Puis pour le reste, ben.
Ça va être écrit, faites vos recherches chez les produits.
Oui, c'est parce que pour le reste, l'été, ils vont pas nous démêler plus qu'on est mêlé là.
Il y a un auditeur qui dit, si j'achète un pâté de viande ici puis que l'assiette d'aluminium est américaine, va-t-il y avoir un gros thé dessus?
Arrêtez! Je trouve ça tellement important
faut
malgré
que tu,
tout
faut
qu'on
que
en
tu
parle.
Punches l'assiette, mais faut pas que tu défasses le pâté. C'est compliqué,
OK,
là.
C'est assez.
Ben, la bière de ta microbrasserie québécoise
oui.
est dans une canette d'aluminium.
La bière de ma microbrasserie. La Coors Light, c'est...
prends n'importe quelle autre. Une petite blonde de la souche.
Oui.
Est dans une canette d'aluminium.
Oui.
L'aluminium vient d'ici.
Oui.
Il est transformé où?
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Fait qu'on met un gros thé dessus, mais on se nuit à nous-mêmes.
Fait que là, tu vas avoir une bière de la souche avec un thé dessus. Ça marche pas. Ça marche.
Mais non, t'auras pas ça.
Non, je suis un peu d'accord avec le food professor là-dessus. Là. Soyez logique dans vos achats, puis ça va bien aller. Midi 34, Denis Gravel, on te coûte à 14h.
À tantôt.
Qui va gagner ce soir entre le Canadien et les Blues de Saint-Louis?
Hey, quel match! Les deux équipes qui se battent pour une place en série. On va y aller avec le Canadien.
Pis les Blues, c'est pas mal l'équipe de l'heure,
ouais,
ce temps-ci.
Ouais, avec le CH.
Tu y vas avec le Canadien?
Oui, oui, oui. Un genre de 4-3.
On
là,
va
quelque
réussir
chose
à se réchapper. À ce temps que les Bruins sont poches, il veut retransférer.
Il a pas l'air de vouloir changer de camp, par exemple.
Non.
Non, je vis le bonheur
c'est
de mes enfants.
Mon ex, il était peut-être tanné, mais il était retourné avec une fille.
Vous avez plus, il n'y a plus de cœur chez les Bruins, là.
Oh, y a
Patrice
plus
Bergeron est parti. Brad Marchand a été échangé. Il ne te reste plus rien, Denis.
Je sais. Jeremy Swayman vous laisse battre.
Pense à Cole Caulfield. Ouais. Pense à Slavkovski. Pense à Suzuki. Pense à Arbor Jacky. Pense à Florian qui s'en vient. Florian Jacky.
Si jamais je reviens avec le Canadien, là, toutes les explications logiques pour devenir un partisan des Bruins, ça tient plus et je deviens un opportuniste politique et je veux pas être
Tu vas avoir un tête sur toi.
Hey, bon après-midi, M. Gosselin.
Salut. Bridge against le matin.